Bonjour à toutes, bonjour à tous. À tous, en route sur les chemins de la philosophie, direction la sagesse, celle ultime qui nous apprend à ne pas craindre la mort. Bonjour Jérôme Laguenard.
Bonjour Adèle Vendrette.
Est-ce que vous pensez qu'on peut, ou est-ce que Sénèque pense qu'on peut apprendre à mourir?
Du moins, il donne des méthodes, des techniques pour nous aider à vivre l'événement de la mort.
C'est exactement le sujet des lettres à Lucilius, n'est-ce pas?
C'est l'un des sujets principaux de ces lettres qui ont été écrites durant la vieillesse de Sénèque, avec une urgence du temps qui passe.
Ces lettres à Lucilius peuvent être lues comme un manuel de philosophie. Elles ont été rédigées vers 65 au début de notre ère, un peu avant puisqu'il meurt en 65. Beaucoup de thèmes sont abordés, on va les évoquer cette semaine. Hier on parlait de l'utilité de la philosophie puisque pour les stoïciens dont fait partie Sénèque, la philosophie a un but, une utilité pratique et parfois publique. Aussi le rôle de l'amitié, le rapport à l'argent, mais surtout, et Sénèque nous le dit dès la première lettre, il s'agit de devenir maître de son temps, afin notamment de ne pas souffrir de la mort. Et pourtant, il y a bien du chemin à parcourir quand on sait qu'il existe dans l'homme une tentation naturelle à se laisser aller vers la mort. Écoutez Sénèque avec la voix de Georges Clesse.
Mon cher Lucilius, ici comme pour le reste, il existe une inclination irréfléchie de l'âme, même pour mourir, qui a saisi souvent des hommes magnanimes et d'un caractère très vif, ou souvent lâches et languissants. Les premiers méprisent la vie, les seconds l'ont à charge. Certains hommes, ce dégoût de la vie, les gagnent. Nous y tombons à cause des appels mêmes de la philosophie, quand nous disons « Jusqu'à quand ces mêmes choses ?» Bien sûr, je m'éveillerai, je m'endormirai, je mangerai, j'aurai faim, j'aurai chaud. Il n'y a aucun terme. Mais dans le monde, tous les éléments sont liés. Ils fuient et se suivent. La nuit presse le jour et le jour la nuit. L'été cesse en automne. L'hiver presse l'automne. Le printemps sert celui-ci. Tout passe pour revenir au commencement. Je ne fais rien de nouveau. Je ne vois rien de nouveau. D'où parfois cette nausée de toute chose. Nombreux sont ceux capables de juger la vie non pesante, mais superflue. Porte-toi bien.
La stratégie d'écriture de Sénèque, Jérôme Laguenard, consiste à partir d'une expérience très quotidienne que l'on peut tous faire, non pas l'envie parfois complètement irréfléchie et pulsionnelle de mourir parce qu'on n'en peut plus, parce que la vie est insupportable, mais ce sentiment très quotidien de la lassitude de l'existence, du dégoût de la vie, les saisons se suivent et je ne trouve aucun sens à ma propre vie, d'où cette inclination de l'âme pour mourir. L'affirmation est très forte.
Effectivement, chez Sénèque, le rapport à la mort, le rapport au temps, est d'abord pris dans une dimension existentielle. Donc, quel est notre rapport au temps? La plupart des gens du quotidien, ce qu'ils nomment les stulti, ceux qui n'ont pas la sagesse, ne prennent pas conscience du sens du présent, du moment présent. Ils n'ont pas conscience du temps qui passe. Ils n'estiment pas le présent à son juste prix. Et c'est justement tout le travail philosophique, tout le travail que Sénèque mène avec Lucilius, de lui montrer comment estimer le temps qui passe à son juste prix. Et ici, dans ce petit texte qui vient d'être lu, on s'en rend bien compte. Ce thème du temps qui passe et qui repasse de manière circulaire, c'est intéressant, surtout si on renvoie cela aux conceptions stoïciennes du temps. Chez Sénèque, le temps est présenté selon deux images principales. Un temps linéaire, donc qui est un temps si on aborde le point de vue mathématique, qui est un temps infini, qui peut se découper à l'infini, et qui fait que le présent n'a aucune consistance. Ce n'est qu'une frontière entre ce qui est passé et ce qui est à venir. Et donc, si on considère ce temps géométrique, ce temps mathématique, il faut le considérer, redonner au temps présent toute sa substance. Il y a un texte stoïcien qui dit que seul le présent existe, alors que le passé et le futur subsistent. Et on a une autre image chez Sénèque, qui est un peu présente ici. C'est l'image du temps circulaire. Et par exemple, dans la lettre 12, Sénèque présente le temps de la vie selon des cercles concentriques qui se suivent. Le cercle le plus petit au centre, c'est le jour de ma naissance, puis celui de ma jeunesse, de ma adolescence, etc., etc. Et le grand cercle, c'est celui de la vie. Voilà. C'est un texte très difficile d'interprétation. Je suis d'avis qu'il ne faut pas voir ces cercles concentriques uniquement comme une figure plane, mais également, on va dire, selon comme un cône. Un cône dont la pointe serait le moment présent.
Alors on va entendre ce texte pour illustrer vos propos. C'est en effet la lettre 12. Sénèque écrit ceci. « Il est pesant, dis-tu, d'avoir la mort sous les yeux. » Donc il s'adresse à Lucilius. D'abord, celle-ci doit être sous tes yeux tant dans la vieillesse que dans la jeunesse, car nous ne sommes pas convoqués d'après la liste du sens. Ensuite, personne n'est assez vieux pour espérer, avec impudence, un seul jour de plus. Or, un seul jour de plus est un pas dans la vie. Toute une vie se compose de parties et contient des cercles concentriques, des plus grands aux plus petits. Il y en a un qui embrasse et entoure tout. Celui-ci s'étend de la naissance jusqu'au dernier jour. Il y en a un autre qui délimite les années de l'adolescence. Il y a celui qui resserre dans ses replis toute l'enfance. Il y a ensuite l'aine qui contient en soi intrinsèquement tous les moments dont la multiplication constitue la vie. Le moi est entouré d'un cercle plus étroit. Et le jour se constitue d'un rond le plus exigu, mais qui lui aussi va du début à la fin, du lever au coucher du soleil. Ces cercles concentriques, on les retrouve beaucoup plus tard chez David Hume, notamment, qui parle des cercles concentriques avec le moi au milieu et ensuite en fonction du nombre d'amis et de familles que l'on a qui s'élargissent.
Oui, c'est un thème très fréquent dans le stoïcisme. Par exemple, ce thème des cercles concentriques, on le voit chez un texte de Hiéroclès pour décrire l'oikéosis, qui explique la manière dont le sujet se rapporte aux autres. Donc vous en parlerez avec amitié, avec Valérie Laurent.
Jeudi prochain.
Voilà. Ici, c'est vraiment à propos du temps. Voilà. Et qu'est-ce que ça nous dit, cette image des cercles concentriques? Que finalement, tous les cercles se valent. Voilà. Et qu'un jour, vivre intensément un jour, ça vaut. C'est égal au fait de vivre intensément toute une vie. Voilà. De fait, on voit juste après ce passage, une citation d'Héraclite. Sénèque cite souvent Héraclite, le thème du flux, le temps qui passe. D'ailleurs, dans une lettre, il dit même « La mort me suit, la vie me fuit ». Voilà. On est bien donc dans cette urgence. Et tout le travail du sage, tout le travail philosophique de Sénèque ici, va être de ressaisir le flux temporel. Faire en sorte que on ne peut pas arrêter le flux, mais faire en sorte de vivre intensément le présent.
Ce qui semble contradictoire avec ce qu'on disait notamment hier en compagnie de Juliette Rose sur la philosophie stoïcienne, et en particulier celle de Sénèque, qui consistait à endurer les souffrances de l'existence sans rechercher le plaisir, sans rechercher la joie est sévère, dit Sénèque, avoir conscience que le temps est un flux et essayer de vivre intensément le présent, on est presque du côté du carpe diem.
Oui et non. Alors, parce que l'un des thèmes du stoïcisme, de Sénèque, c'est que il n'y a aucune douleur assez forte pour empêcher de vivre. Parce que si la douleur est trop forte, on meurt. Et quand on meurt, on n'est plus, on ne sent plus. Donc, ce qui signifie que il y a ce qui est important pour le stoïcien, c'est l'intention, l'intentionnalité des actes moraux. L'importance d'être toujours constant en soi, de faire en sorte que le tonos, cette tension interne de la partie principale de l'âme, ce qu'on appelle l'hégémonicon, voilà, c'est vraiment celui qui commande dans l'âme, soit toujours tendu, intense, constant. Voilà. Faire en sorte que les passions ne l'emportent pas sur la raison. Voilà, c'est ça, tenir l'instant présent. Voilà. on n'est pas seulement dans le domaine de la seule sensation. On est vraiment dans une constance, une tension rationnelle de soi.
Il dit quand même, la vie, il ne faut pas toujours la retenir, tu le sais, car ce n'est pas vivre qui est un bien, mais bien vivre.
Voilà. Alors,
qu'est-ce que ça veut dire bien vivre pour Sénèque?
Là est le problème. Qu'est-ce que bien vivre? Donc, bien vivre, fondamentalement, ça va signifier faire en sorte qu'on être en accord avec soi-même. Un accord avec soi-même, c'est-à-dire un accord avec sa raison. Donc, ce qui fait que quelqu'un qui vit bien, qui est conforme à sa raison, peu importe la durée de sa vie, qu'il meure jeune ou plus âgé, il aura bien vécu. Voilà. Et donc, celui qui vit bien, c'est-à-dire qui vit rationnellement chaque jour, eh bien, chaque jour vaut une vie. Donc, il a vécu intensément. Et peu importe que le monde, que la mort arrive tôt ou tard. Car elle viendra tôt ou tard.
Épicure ne blâme pas moins ceux qui désirent la mort que ceux qui la craignent. Et dit... Il est ridicule de courir à la mort par dégoût de la vie quand tu mènes un genre de vie qui te pousse à courir à la mort. Tu peux ajouter à cela, et à d'autres propos célèbres du même genre, que l'inconséquence des hommes est si grande, ou plutôt leur folie, que certains sont forcés à mourir par crainte de la mort. Quel que soit celui que tu méditeras, tu fortifieras ton âme à supporter la mort ou la vie. En effet, dans les deux cas, il nous faut nous avertir et nous renforcer, et pour ne pas trop aimer la vie, et pour ne pas trop la haïr. Même quand la raison convainc d'y mettre un terme, ce n'est pas sans réflexion ni par une fuite en avant qu'il faut prendre son élan. Un homme courageux et sage ne doit pas fuir la vie, mais la quitter.
Alors, en très peu de lignes, on a beaucoup de choses ici, Jérôme Laguenaire. L'idée de fortifier son âme à supporter la mort... ou la vie, c'est-à-dire comme si l'âme était un muscle qu'on pouvait fortifier. Et enfin, le courage ne consiste pas à fuir la vie, mais à la quitter. La différence entre la fuite et le départ est très subtile, et toute la pensée de Sénèque sur la mort se trouve dans cette distinction.
C'est justement tout l'enjeu de cette lettre 24, dont il est un exemple de, ce qu'on peut appeler le terme latin, de praemitatio malorum futurorum, ce que je traduirais par la préparation au mot futur.
Au mot MAUX.
Voilà. Ouais. Et dans cet exercice, la préparation à la mort, l'idée de mort est importante, elle joue un rôle capital. En effet, donc, il faut resituer un peu le contexte, lettre 24. Donc, Lucilius rencontre, est dans un procès, il a peur, et Sénèque, dans cette lettre, va le rassurer. La lettre est donc structurée comme un exercice spirituel. C'est un exercice spirituel. Dans le premier temps, il va récuser l'exercice épicurien. Parce que les épicuriens aussi avaient l'exercice pour faire en sorte que les mots MAUX ne nuisent pas à la tranquillité de l'âme. Donc les premières lignes vont dire que il faut recuser cela. Donc les épicuriens, eux, leur principe, c'était on rejette les idées négatives et on se souvient que du positif. Voilà, pour résumer. Ça, Sénèque va le récuser. Et il va proposer l'exercice proprement stoïcien. Cet exercice proprement stoïcien consiste à affronter la mort, telle qu'elle. À la dépouiller de tout ce qu'elle peut avoir d'inquiétant. Faire en sorte de voir ce qu'est la mort. De montrer que la mort n'est rien, fondamentalement. Et pour cela, il y a tout un travail sur l'imaginaire qui va jouer, qui est notamment bien étudié par Foucault, qui étudie ce texte dans un de ses cours au Collège de France. Il s'agit vraiment de procéder à un dépouillement imaginaire de la mort. Voilà. Parce que avoir peur de la mort, la peur de la mort est instinctive, elle reste de l'émotion. Pour que ne pas avoir peur de la mort, il faut s'entraîner. Voilà. Méditer, méditare, c'est s'exercer. C'est un exercice. Et seulement en s'exerçant tous les jours, qu'on arrivera à être fortifié face à la mort. Lorsqu'on a la conscience claire que la mort n'est rien pour nous, alors toute crainte s'évapore. Voilà. Et de fait, effectivement, il y a le thème de la... On parlait de musculation, ouais. Effectivement. Et notamment dans la manière dont Sénèque décrit ce thème, il y a, oui, une dimension très virile dans l'acte de méditation. Qu'on retrouve de manière récurrente avec des images qui renvoient au gladiateur, par exemple. Donc, il faut faire preuve d'une forme de force, de force de l'âme. Ça renvoie à ça, la psychologie stoïcienne. Parce que la partie principale de l'âme, donc l'hégémonikon, ce qu'on appelle oui, la partie qui gouverne l'âme, il faut le considérer un peu comme, comme une sorte de muscle, comme de souffle. Il y a un souffle à l'intérieur. Voilà. Et le sage, celui qui va donner une bonne pression à ce souffle intérieur. Voilà. Mais pour que ce muscle soit toujours en capacité de résister à ce crâne de la mort, il doit s'entraîner.
Et voici un exemple d'entraînement assez terrifiant, parce qu'il faut le dire, dans ces textes, Sénèque propose des formules qui sont très parlantes, qui invitent à la méditation, mais aussi des images très fortes qui s'adressent directement, pour le coup, la faculté imaginative du lecteur et de son interlocuteur Lucilius. Il prend l'exemple de Caton qui, d'une certaine façon, s'entraîne à mourir, c'est-à-dire s'entraîne à se suicider jusqu'à faire marche arrière. Écoutez ce texte assez incroyable, interprété par Georges Clès, c'est un extrait de la lettre 24.
« Elles sont rabâchées, dis-tu, dans toutes les écoles, ces histoires. Dès que viendra le moment de montrer qu'il faut mépriser la mort, tu vas me parler de Caton. Pourquoi ne te raconterai-je pas, moi, que durant sa dernière nuit, il lisait un livre de Platon, alors qu'un glaive était posé sur son chevet. Voilà les deux aides qu'il avait préparées dans des circonstances extrêmes, l'une pour vouloir mourir, l'autre pour pouvoir. Une fois donc ses affaires mises en ordre autant qu'elles pouvaient l'être, réduites en pièces et dans la dernière extrémité qu'elles étaient, il a estimé qu'il fallait faire en sorte qu'il ne soit permis à personne de tuer Caton ou de le garder sauf. Ayant aiguisé son épée, qu'il avait gardée pure de tout crime jusqu'à ce jour fameux, il dit « Tu n'as rien fait, Fortune, en mettant des obstacles face à tous les efforts. Ce n'est pas pour ma liberté que j'ai combattu jusqu'à présent, mais pour celle de ma patrie. Et je ne faisais pas cela avec tant d'opiniâtreté pour vivre libre, mais pour vivre parmi les hommes libres. À présent, puisque les affaires du genre humain sont désespérées, qu'on conduise Caton en lieu sûr. » Il s'infligea ensuite sur son corps une blessure mortelle. Malgré les pansements faits par les médecins, alors qu'il avait moins de sang, moins de force, il avait la même force d'âme. Il s'irrita alors non seulement contre César, mais contre lui-même. Et il appliqua ses mains nues sur ses plaies. Et ce noble souffle, qui méprisait tous les pouvoirs, il ne le rendit pas, mais le rejeta.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, il est 10h20 et c'est le deuxième temps de notre série d'émissions sur les lettres à Lucilius de Sénèque. On peut apprendre à mourir, on peut s'entraîner à mourir dans une forme de sérénité. C'est ce dont nous parlons aujourd'hui en compagnie de Jérôme Laguenère, qui est maître de conférences de langue et littérature latine à l'Université Paul Valéry Montpellier III, à qui l'on doit notamment une anthologie des lettres à Lucilius aux éditions du Rocher, ainsi qu'un ouvrage intitulé « Intériorité et réflexivité dans la pensée de Saint-Augustin », paru dans la collection des études augustiniennes en 2012. Quel texte incroyable, Jérôme Laguenère, que l'on vient d'entendre, ce Caton qui s'enfonce un glaive dans le corps pour finalement... Est-il dit mettre ses mains nues, couvrir ses plaies à l'aide de ses mains nues, et ce noble souffle, est-il écrit, qui méprisait tous les pouvoirs, il ne le rendit pas, mais le rejeta. On retrouve ici la différence entre fuir et quitter la vie. Pourquoi entre rendre un souffle et le rejeter? Quelle est la différence?
Donc, la différence, c'est le fait entre subir sa mort et choisir sa mort. Alors, et justement, donc, ce texte, donc, c'est de la lettre 24, fait partie des moyens, des techniques qui permettent au sujet, à Lucilius ici, de pouvoir affronter la mort. L'un des procédés, en effet, de cette préparation à la mort, c'est d'avoir en tête des exemples, des modèles de conduite qui sont facilement réutilisables dans telle ou telle situation. Donc ce sont des modèles de conduite à suivre. Et le récit, le magnifique récit que fait ici Sénèque, est fait pour vraiment marquer l'imaginaire de Lucilius. Tous les détails ici sont importants. Depuis le recours au dialogisme, où Sénèque mime la réaction de Lucilius. Hein, Lucilius dirait, cette histoire, on l'a déjà racontée. Hein. Alors, ce qui déjà montre la dimension didactique, pédagogique de Sénèque, qui va affronter le scepticisme de son élève. Ce qui est intéressant, déjà, d'entrée, c'est la figure de Caton. Caton, qui, chez les stoïciens, donc Caton d'Utique, Caton le jeune, qui, chez les stoïciens, donc de l'époque impériale, va être le modèle du sage. Le modèle du sage. Et Sénèque, dans plusieurs textes, va reprendre cette image de Caton, de la mort de Caton. Ici, on voit plusieurs étapes dans le récit. D'abord, on resitue un peu le contexte. Caton, qui fait partie des troupes de Pompée, donc lors de la guerre civile entre Pompée et César, donc Pompée a été vaincu, et les derniers aînés des partisans de Pompée sont réfugiés en Afrique du Nord, et ils viennent de perdre la dernière bataille face à César. Donc César, donc Caton, a perdu tout ce pourquoi il a combattu. Et la question va se poser pour lui, que faire ? Là, dans la description que nous fait Sénèque, et qu'on retrouve dans d'autres textes historiens, on voit que Caton a deux choses à côté de lui, très intéressantes. À la fois un livre de Platon, à savoir le Phédon. Le Phédon.
Dans lequel Platon raconte sa propre mort.
Et de l'autre,
la mort de Socrate, plutôt.
La mort de Socrate. Ouais. Et de l'autre, un glaive. Voilà. Donc pour mourir.
L'un pour vouloir mourir, ouais. L'autre pour pouvoir mourir.
Donc on a là les deux dimensions importantes de la bonne mort.
C'est-à-dire chez Platon, on peut apprendre à mourir, vouloir mourir, et le glaive nous permet de pouvoir mourir. C'est
voilà,
ça
voilà. Donc la philosophie, donc pour pouvoir mourir, il faut pratiquer la philosophie. Voilà. Donc c'est seulement en pratiquant la philosophie qu'on va vouloir mourir. Tandis que le glaive, c'est juste le moyen de notre action. Mais l'intention, l'intentionnalité, va être travaillée grâce au travail philosophique. Et ici, on voit la réflexion. Pourquoi Caton décide de se suicider Il décide de se suicider pour échapper à la fortune, avec un F majuscule, c'est-à-dire au hasard. À ceux qui échappent à la raison. Voilà. Et également pour conserver sa liberté. Voilà. L'acte de suicide chez les stoïciens est d'abord un acte pour garder la liberté. Ici, la liberté peut avoir un double sens, une dimension politique. C'est la fin de la République, voilà, avec le début du césarisme, etc., etc. Mais on peut aussi le comprendre au point de vue philosophique, à savoir la liberté ici, choisir sa mort, voilà en quoi réside l'ultime liberté du stoïcien. Voilà, qui ne va pas être soumis aux aléas de la vie, mais qui va choisir lui-même le bon moment pour mourir.
Mais alors, il faut bien comprendre cette phrase ici, choisir le bon moment pour mourir comme étant un signe de liberté. Il ne s'agit en aucun cas d'une apologie du suicide.
Tout à fait, tout à fait. Donc, d'une part, ici dans ce texte, le suicide est un exercice mental, donc pour pouvoir s'entraîner, pour pouvoir être prêt.
Enfin mental, pas seulement, voilà. Parce qu'ici Caton se blesse le corps avec le glaive, voilà. Avec son glaive.
Et pour Lucilius. Et pour Sénèque, ce sera un exercice mental. Mais le suicide n'est pas une fin en soi, même dans certains textes.
Bah et pourtant, quelle autre fin que le suicide ? C'est la fin de la vie.
Justement, pour certains.
Où est-ce qu'il y a une vie après la mort pour Sénèque ?
C'est la question, donc, la grande question de l'immortalité de l'âme dans le stoïcisme. Donc, tous les stoïciens ne sont pas d'accord. Pour certains, l'âme se maintiendrait en fonction de la sagesse, en fonction. Si l'on est sage ou pas, après la mort. Pour d'autres stoïciens, en revanche, il n'y a pas d'immortalité de l'âme. Bon, on a une lettre de Sénèque, dans la lettre à Lucilius, où il évoque ce beau rêve de l'immortalité. Mais ce n'est pas l'argument qu'il va utiliser. Voilà. Ce qui est important, vraiment, c'est de garder jusqu'au dernier moment sa constance. Hein, sa constance. Une forme comment on dit, d'authenticité vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de sa dimension rationnelle. Voilà. Et de fait, ici, c'est ce qu'on, bien ce qu'on voit. Hein. Pourquoi Caton se décide de mourir à ce moment-là? Parce qu'il se rend compte, voilà, qu'il ne peut plus rien faire d'autre. Voilà. Contrairement à d'autres types de suicides que Sénèque évoque et qu'il critique, par exemple le suicide suite à la passion amoureuse, voilà, qu'il évoque dans plusieurs lettres. Hein. Non, là, ce suicide-là, il est condamné, parce que c'est un suicide qui est fait sous le coup de la passion. Hein. Alors que le suicide de Caton est fait de manière très rationnelle.
Sénèque a bien conscience que c'est un sujet extrêmement délicat, hein, que celui du suicide, et il prend soin de dire en quel sens il entend la phrase voilà, « être maître de sa propre mort ». Dans la lettre 70, il écrit ceci, en s'adressant à Lucilius donc. « Tu ne peux sur ce sujet donner un avis général, pour savoir si, quand une force extérieure ordonne de mourir, il faut la devancer ou l'attendre. En effet, il y a de nombreux arguments qui peuvent nous faire pencher dans un sens ou dans un autre. Si une mort se déroule avec des tourments, et une autre de manière simple et facile, pourquoi ne faudrait-il pas mettre la main sur la seconde? De même que je choisirais le navire sur lequel naviguer et la maison où habiter, de même, je choisirais ma mort pour quitter la vie. En outre, de même que la vie n'est pas forcément d'autant meilleure qu'elle est longue, de même la mort est d'autant plus terrible qu'elle se prolonge. Nulle part davantage que dans la mort, nous devons exécuter les volontés de l'âme. Qu'elle parte dès qu'elle a pris son élan. Elle recherche le fer, le lacet ou quelques poisons qui se répandent dans les veines. Qu'elle aille jusqu'au bout et rompe les chaînes de la servitude. Pour sa vie, on a des comptes à rendre aux autres. Pour sa mort, à soi-même. La meilleure est celle qui nous plaît. Ce sont des pensées sottes que celles-ci. L'un dira que j'ai agi avec trop peu de courage, un autre de manière trop légère, un autre enfin qu'il y avait des types de morts plus nobles. Mais veux-tu songer que c'est une décision à prendre ? Qui ne concerne pas l'opinion des gens. Ne fixe ton regard que sur une seule chose. Échappe-toi de l'emprise de la fortune le plus vite possible. Du reste, il y en aura toujours pour mal juger ton acte.
Je sens que ça me bouffe l'intérieur tout doucement. Et plus ça va aller, plus ça va me bouffer. Enfin, je suis pas médecin, mais je le vois, c'est ce qui se passe. Donc là, ce serait bien que ça s'arrête. Que là, la douleur psychologique, elle est énorme. Ouais. Tu fais plus rien quand t'es dans cet état. J'ai un peu moins de peur. Mais c'était partagé entre la peur et la délivrance. Et là, il y a la délivrance qui prend le dessus sur la peur. Je me dis, waouh, aïe, bientôt c'est fini.
Très très difficile comme ça.
Et bien c'est quand vous voulez que vous le sentez.
Est-ce que vous savez ce qui va se passer quand vous ouvrez cette perfusion
je
que nous avons
mourir.
Mis Oui. Si vous voulez mourir maintenant, vous pouvez ouvrir la perfusion avec le mouvement de la tête.
D'accord.
Oui.
Je suis un homme libre.
Oui. Très bien.
Le témoignage de Stéphane Hausset qui choisit de se donner la mort parce qu'il est extrêmement malade. C'était un extrait du reportage proposé par France 3 le 12 décembre 2014. S'inscrit exactement dans ce que Sénèque décrit et même en appelle à ce choix de la mort, de choisir celle qui nous plaît indépendamment de l'opinion des autres. Ce n'est jamais à d'autres personnes, quels que soient les critères qu'ils avancent, de choisir de notre propre mort. Et Stéphane Hausset parle de délivrance. Et d'actes de liberté au moment de se choisir la mort. La question de l'euthanasie, même étymologiquement, est intrinsèquement liée avec ce texte de Sénèque, Jérôme Laguenaire.
Oui, donc euthanasie, donc on va donc pour aborder cette question de l'euthanasie, on va revenir ici au terme étymologique euthanasie, la bonne mort, la belle mort. Donc pour Sénèque, le choix de la mort est important. Il faut choisir une bonne mort, une belle mort, et la belle mort. pour Sénèque, c'est celle qui échappe à la fortune.
Au hasard.
C'est celle qui est le fruit d'un choix rationnel. Voilà. Donc, comme je le disais, donc, la mauvaise mort, c'est toute la mort, toutes les morts qui se feront sous le coup d'une passion. Voilà. Mais qui se feront également sous le coup de la souffrance. Hein. Il donne des textes où, parce que, comme je disais tout à l'heure, il n'y a aucune souffrance assez forte. Dès qu'il y a une souffrance trop forte, il y a la mort. Voilà. Donc, pour Sénèque, la bonne mort, c'est celle qui va permettre au sujet de garder sa liberté rationnelle. Faire en sorte que la raison intérieure, donc la raison intérieure du sujet, corresponde avec la raison universelle. Donc derrière, on peut voir aussi un plan, on va dire un peu cosmique. Hein. Il faut faire le rapport entre le temps humain et le temps de l'univers, parce que donc bon, dans la physique stoïcienne. Il y a une sorte, ce que j'appelle avec mes étudiants, une équation stoïcienne où la raison, la nature et le Dieu sont des termes équivalents. Et c'est justement cette raison, cette nature qui a créé le monde, pas en premier souffle. Et donc dans la pensée stoïcienne, il y a donc des allers-retours entre une renaissance de l'univers puis sa mort, une renaissance de l'univers puis sa mort. Et le sage, le travail du sage, c'est justement de faire en sorte que sa raison individuelle soit en accord avec cette raison universelle. Et c'est là que se joue la question de la mort. Mm-hmm. Voilà. Quand le sage stoïcien pense qu'à tel moment, la mort est le choix le plus rationnel pour mettre en accord sa raison individuelle avec la raison universelle, il s'agit d'une bonne mort.
Et souffrir de manière insupportable est une raison. Parce que c'est difficile de voir comment Sénèque, d'un côté, dit mais ne prend pas en compte l'opinion des gens, et de l'autre, fait la distinction entre une bonne et une mauvaise mort. C'est quand même exprimer une opinion sur la façon dans le rapport à la mort.
Voilà. Donc là, la question, justement, la question de la souffrance, donc, pour un stoïcien, s'il y a une souffrance très importante, ça veut dire que forcément il y aura la mort. Hein. Il ne peut pas y avoir une souffrance très importante sans la mort. Et par définition, la mort sera la fin de la souffrance. Mais ce n'est pas le critère premier de la bonne mort. Hein. Le critère premier, c'est vraiment le choix rationnel. Hein. Le fait d'assurer sa liberté face aux aléas de la vie, aux aléas de la fortune. Le but est vraiment de rester toujours maître de soi, maître de ses choix, maître de sa vie, maître de son temps.
Il faut dire aussi que Sénèque écrit dans un contexte où les mises à mort sont assez fréquentes, et il sait qu'il peut tomber sous le coup de cette mise à mort, d'ailleurs ça va être le cas, ce contexte-là justifie ses propos dans la mesure où ce qu'il tient à affirmer, c'est qu'il est plus courageux et plus digne de soi que de se donner la mort, que de se faire tuer par quelqu'un d'autre.
Oui, de fait, à l'époque de Sénèque, notamment, la mort, le suicide, est aussi un acte de liberté politique. On le voit chez Tacite, hein, le récit de nombreux sénateurs nourris de stoïcisme qui vont se suicider, justement, pour montrer leur liberté. Pour montrer que le prince Néron, à cette époque, n'a aucun pouvoir sur eux. Voilà. Donc, il y a cette revendication politique très importante, le suicide comme acte de contestation politique. Voilà.
Et donc, on va ordonner à Sénèque de se suicider, c'est Néron qui l'ordonne de se suicider.
Donc, de fait, la mort de Sénèque va s'expliquer par cet arrière-plan politique. Bon, il y a eu donc une sorte de conjuration menée donc par un noble sénateur, Pison, et Néron va plus ou moins profiter de l'occasion. Qu'il y aurait eu des liens entre Pison et Sénèque.
Donc, rappelons quand même que Sénèque a été le précepteur de Néron pendant de longues années, qu'il a été ensuite d'abord remercié et puis envoyé en exil.
Voilà, par Claude.
Par Claude. et que Néron, voulant se débarrasser de Sénèque, va profiter de cette conspiration de Pison pour tuer Sénèque, c'est-à-dire demander à Sénèque de se suicider.
Voilà, d'autant que justement, au moment de la rédaction des lettres Aucilius, Sénèque avait justement demandé de se retirer de la cour de Néron. Voilà. Et donc Néron va profiter de l'occasion pour se débarrasser de quelqu'un qui peut être gênant pour lui. Donc, et de fait, la mort de Sénèque s'exprime aussi dans ce contexte, dans cet arrière-plan politique, à ne pas négliger. D'où le double sens du mot liberté dans les lettres à Lucilius, à la fois dans l'enseignement politique, parce que très souvent liberté ça renvoie à la République romaine, et dans sa dimension philosophique, la liberté qui s'oppose au pur déterminisme, à pure conduite fortuite des événements.
Le fer lui ouvre les veines des bras. Sénèque, dont le corps affaibli par les années, par l'abstinence, laissait trop lentement échapper le sang, se fait aussi couper les veines des jambes et des jarrets. Bientôt, dompté par d'affreuses douleurs, il craignit que ses souffrances n'abattissent le courage de sa femme et que lui-même, en voyant les tourments qu'elle endurait, ne se laissât aller à quelque faiblesse. Il la pria de passer dans une chambre voisine. Puis, retrouvant jusqu'en ses derniers moments toute son éloquence, il appela des secrétaires et leur dicta un assez long discours. Comme le sang coulait péniblement et que la mort était lente à venir, il pria Stasius Annaeus, qu'il avait reconnu par une longue expérience pour un ami sûr et un habile médecin, de lui apporter le poison dont il s'était pourvu depuis longtemps, le même qu'on emploie dans Athènes contre ceux qu'un jugement public a condamnés à mourir. Sénèque prit en vain ce breuvage. Ses membres déjà froids et ses vaisseaux rétrécis se refusaient à l'activité du poison. Enfin, il entra dans un bain chaud et répandit de l'eau sur les esclaves qui l'entouraient en disant « J'offre cette libation à Jupiter libérateur ». Il se fit ensuite porter dans une étuve dont la vapeur le suffoqua. Son corps fut brûlé sans aucune pompe. Il l'avait ainsi ordonné par un codicille lorsque, riche et encore très puissant, il s'occupait déjà de sa fin. C'est le récit proposé par Tacite de la mort de Sénèque, Jérôme Laguenner. Alors, ici, Tacite présente un Sénèque qui souffre, qui est bien loin de la sagesse prônée par Sénèque lui-même. Et en beaucoup de points, ce suicide est assez proche de celui de Socrate, qui est en fait une mise à mort. La question de savoir est-ce que Socrate s'est suicidé parce qu'on lui a demandé de se mettre à mort, c'est la même question. D'ailleurs, il y a beaucoup de rapprochements à faire. Mais juste d'abord, sur cette dimension, sur ce récit par Tacite de la mort de Sénèque.
Ce texte est très ambigu, comme l'attitude de Tacite à l'égard de Sénèque. Bon, pour le dire simplement, Tacite n'aime pas Sénèque. Il lui reproche une attitude, on va dire, pour le moins ambiguë. Et sans doute, on le voit bien dans ce texte, où Tacite décrit la mort de Sénèque comme une mort de Socrate, mais une mort de Socrate qui est un peu ratée. Ah, on le voit, donc Sénèque veut utiliser le poison comme Socrate, mais...
Il veut protéger sa... Il demande à sa femme de sortir comme Socrate le fait également avec Xantippe.
Voilà. Donc, bon, sauf que le poison ne marche pas. Donc, il faut aller dans une étuve, se couper les veines pour faire marcher le poison. Donc, on voit que, voilà, ça se passe pas comme prévu. De même, on voit la notation un peu perfide de Tacite qui rappelle que Tacite a été riche durant sa vie. Donc, il y a cette dimension, très ironique de la part de Tacite dans ce récit de la mort de Socrate. Néanmoins, on ne peut que remarquer une certaine forme de courage chez Sénèque qui transparaît, car on le voit, il affronte la mort, il n'hésite pas à se tuer, même si ça ne se passe pas comme il aurait voulu, il n'hésite pas à mourir, il n'hésite pas à affronter la douleur physique, parce que on sent qu'il y a quelqu'un qui s'est préparé à la mort.
Dans son introduction à Sénèque, Paul Venn écrit ceci: « La mort de Sénèque n'est pas une imitation de celle de Socrate, comme on le répète. Elle s'inspire de la doctrine stoïcienne. Socrate est mort en remerciant Esculape de libérer son âme de son corps. Sénèque meurt en remerciant le dieu stoïcien de lui avoir donné les moyens intellectuels de mourir volontairement. » Là est toute la différence, semble-t-il.
Donc, il y a effectivement chez Sénèque, et on le voit bien dans ses lettres, il faut bien voir que les lettres sont écrites non seulement pour Lucilius, mais aussi pour lui-même. Sénèque ne se décrit pas comme sage. Hein, de toute façon, le sage, il n'y a qu'un sage tous les 500 ans, comme le phénix, comme il écrit dans une lettre. Non, Sénèque est un proficiens, comme Lucille, c'est-à-dire un apprenti en sagesse. Hein. Les lettres sont un moyen, non seulement pour enseigner Lucilius, mais aussi pour s'enseigner lui-même, pour faire le point sur ses progrès. Et le fait, lorsqu'il évoque la mort, il évoque la mort non seulement pour aider Lucilius à se préparer à cet événement, mais aussi pour se préparer lui-même. Il y a dans l'écriture, la lettre au Lucilius, une forme d'urgence. Il faut bien avoir en tête que c'est la dernière œuvre écrite par Sénèque. Il a, on ne connaît pas très bien sa date de naissance, mais on va dire qu'il a entre 60 et 66 ans lorsqu'il écrit ses lettres. Donc, il sent le poids de la vieillesse. Il sent le poids de la mort qui est sur lui. Il n'est pas dupe non plus de la situation politique. Et de fait, les différents exercices mentaux de préparation à la mort sont à la fois adressés à Lucilius et à lui-même. Et on voit bien un homme qui se prépare mentalement à affronter cet événement. Et dont le récit de Tacite nous montre l'efficacité, parce qu'il n'hésite pas à mourir.
C'est-à-dire qu'il est prêt à mourir, même dans le récit de Tacite, qui est très ambigu, comme vous l'avez dit, et qui semble n'avoir pas beaucoup d'affection pour Sénèque, il reconnaît cette préparation, puisqu'il est capable, au dernier moment, de dédier sa mort à Jupiter.
Voilà. Donc, là, le courage de Sénèque face à la mort n'est pas nié dans le récit de Tacite. Voilà. C'est au moins une vertu qu'il reconnaît. Hein. Contrairement, par exemple, à la mort de sa femme, Paulina, donc, qui se suicide en même temps que Sénèque. Mais dans la manière dont c'est raconté, Tacite va rapporter des rumeurs sur laquelle Pauline, donc la femme de Sénèque, aurait fait semblant de se suicider. Voilà, donc une attitude beaucoup plus ambiguë. Là, cette attitude ambiguë chez Sénèque, elle n'apparaît pas. Il affronte la mort. Voilà. Et également avec une mise en scène grandiose, avec les ultima verba, les derniers mots, plein de sagesse, donc également le fait qu'il éloigne son épouse pour éviter un déclenchement d'émotions, pour que vraiment l'acte final soit un acte purement rationnel, purement raisonnable.
Alors, que ce soit bien clair, et je le répète, le suicide n'est pas la seule option pour Sénèque, en aucun cas il affirme que pour bien mourir, il faut se donner la mort, c'est au contraire être dans la disposition d'accueillir la mort de la manière la plus sereine, voire même la plus joyeuse possible. Et il prend un exemple dans ses lettres à Lucilius, dans la lettre 30, celui de Bassus à Aufidius, qui il écrit que la vieillesse pèse lourdement et totalement de tout son poids, qu'il a un corps faible et desséché. Cependant, notre Bassus a l'âme vive, la philosophie a tenu parole, il était plein de gaieté à la vue de la mort, et quel que fût l'état de son corps, il était courageux, joyeux, et n'était pas affaibli, bien qu'il s'affaiblit. Là, on a un exemple de réussite, de l'effet même de la philosophie sur un corps et sur une âme bien vivante, qui est de pouvoir, dans la vieillesse, donc ce moment le plus dur pour un stoïcien de l'existence humaine, et pas que pour un stoïcien d'ailleurs, la vieillesse et la maladie, et bien d'accueillir la mort de manière sereine et joyeuse.
Tout à fait. Donc, Sophidius, donc c'est un historien, donc dont Sénèque, le rhéteur, nous a conservé un petit morceau. Et ici, on a quelque chose d'intéressant, justement. Lorsque je disais, donc, que Sénèque est un élève. On le voit bien ici. Sénèque, donc, Sophidius, c'est un ami de Sénèque. Et Sénèque lui rend visite. Et Sénèque va apprendre de Sophidius comment affronter la mort. Voilà. Parce que, ici, il décrit, donc, Sophidius comme un sage épicurien. Hein, mais un sage qui, par un travail philosophique, par une médiation philosophique, a progressivement enlevé en lui toute crainte de la mort. Ce qui fait que, alors que la mort est proche pour lui, alors qu'il est âgé, il est malade, il accueille ce moment avec joie.
Grâce à la philosophie ?
Grâce à la philosophie.
Il s'est musclé l'âme, comme dit Sénèque ?
Voilà. Grâce à la philosophie, il s'est musclé l'âme. Et non seulement il est heureux, il accueille donc la mort avec joie, mais même il va donner des leçons. Tout le reste de la lettre, où on a des propos rapportés de Bassus Fidus qui nous donnent des arguments philosophiques pour ne pas avoir peur de la mort. De fait, parce que la mort est un thème très épicurien, mais qu'on peut retrouver aussi dans le stoïcisme, à savoir que la mort, c'est la fin de toute sensation. Or, s'il n'y a plus de sensation, il n'y a plus de douleur.
Et ni de peur.
Ni de peur. Donc il ne faut pas avoir peur de la mort. De même, il nous rappelle que la mort peut arriver à n'importe quel moment, qu'on soit jeune ou plus âgé. Donc, à quoi bon craindre quelque chose qui doit arriver tout le temps ? De même, autre argument, à quoi bon craindre une mort qui va arriver de manière certaine, alors que on peut mourir pour une autre raison. Donc, la crainte d'un ennemi, on peut craindre un ennemi qui va nous tuer, mais ça va être une indigestion qui va nous tuer, comme il le dit. Voilà. Donc, en fréquentant au fil de ce Bassus, Sénèque prend une leçon de vie. Parce qu'apprendre à mourir, c'est d'abord apprendre à vivre.
C'est la leçon de Sénèque, hein. Il faut mourir un peu chaque soir. Qui dit le soir, j'ai vécu, peut dire le matin, je gagne une journée.
Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Je chante, je vais de faire mon château. Je chante pour du pain, je chante pour de l'eau. Je couche la nuit sur l'herbe des bois. Les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, j'ai tout et j'ai rien. Je chante sur mon chemin. Les elfes, divinités de la nuit, les elfes couchent dans mon lit. La lune se faufile à pas de loup dans le bois pour danser avec nous. Je sonne chez la comtesse aujourd'hui. Personne, elle est partie. Elle n'a laissé qu'un plat de riz pour moi, me dit un laquais chinois.
Je chante, Charles Trenet chante. Écoutez cette chanson jusqu'au bout, vous verrez, c'est le récit joyeux d'une mort, ce qu'on ne sait pas forcément quand on n'écoute que le début de la chanson, donc on va vous la proposer jusqu'au bout. Un grand merci à vous, Jérôme Laguenard, d'être venu nous parler de Sénèque aujourd'hui. Vous êtes maître de conférence de langue et littérature latine à l'Université Paul-Valéry Montpellier III. Vous proposez une anthologie des lettres à Lucilius aux éditions du Rocher, ainsi qu'un ouvrage intitulé « Intériorité, réflexivité dans la pensée de Saint-Augustin » paru dans la collection des études augustiniennes.
D'autres moustaches m'ont dit au poste, ah mon ami, oui, c'est vous le chanteur, le vagabond, on va vous enfermer, oui votre compte est bon, non ficelle, tu m'as sauvé de la vie, ficelle, sois donc béni, car grâce à toi j'ai rendu l'esprit, je me suis pendu cette nuit, et depuis je chante soir et matin, je chante sur les chemins. Je hante les fermes et les châteaux, un fantôme qui chante, on trouve ça rigolo. Et je couche la nuit sur l'herbe des bois, les mouches ne me piquent pas. Je suis heureux, ça va, j'ai plus faim, et je chante sur mon chemin.
Cette chanson est aussi joyeuse que glaçante, et c'est sur le devenir fantomatique de Charles Trenet que nous allons donner la parole à la pas du tout fantôme, Géraldine Mosna-Savoie.
Bien ici.
Vous êtes bien devant moi en chair et en os. Bonjour à vous.
Bonjour Adèle, bonjour à tous.
Comme tous les jours, pour vos 2 minutes papillon, vous venez nous parler d'un livre qui vient de sortir. Alors, quel livre a retenu votre attention aujourd'hui ?
Eh bien, c'est un livre qui ne ressemble pas à d'autres livres de philosophie. D'abord, peut-être parce que son auteur, le journaliste américain Joshua Foer, ne revendique pas une méthode, une démarche proprement philosophique. Ce qu'il nous raconte, c'est un récit, le sien, à la première personne. Mais peut-être aussi parce qu'il ne revendique pas non plus de traiter d'un sujet proprement philosophique. Son sujet, c'est pourtant la mémoire. L'art et la science de se souvenir de tout, tel est bien le titre de ce livre qui, je le signale, a été un véritable best-seller aux États-Unis. Pour le dire en une phrase, dans ce livre, Joshua Foer nous raconte comment il s'est mis en tête de devenir un athlète mental, un crack de la mémoire et de participer au championnat de mémorisation aux États-Unis et même, pourquoi pas, de le gagner. Alors bien sûr, je ne vous dévoilerai pas la fin de son récit, s'il a été champion ou pas, mais je m'arrête m'arrêterai sur les grandes questions que soulève ce projet de Joshua Foer. Et d'abord avec son titre. Le titre même, L'art et la science de se souvenir de tout, je le rappelle, laisse entendre qu'il pourrait s'agir d'un manuel de recettes et conseils pour exercer sa mémoire, d'un mode d'emploi. Mais voilà, la mémoire doit-elle vraiment s'employer et à quoi ? À quoi sert-elle ? Doit-elle d'ailleurs nous servir à quelque chose ? Du manuel, de la question de l'emploi de sa mémoire, on passe ainsi au fur et à mesure de ce récit à l'essence même de la mémoire. Quelle est-elle ? Est-elle un seul espace de stockage de souvenirs ? Fournit-elle de quoi créer autre chose que ce qu'elle a rangé ou de quoi répéter ce qu'elle contient déjà ? Et de quoi les souvenirs sont-ils faits ? De données, d'images, de chiffres, de lettres, de chambres à visiter tel un palais ? Joshua Foer le demande lui-même, je cite, « Un souvenir, c'est quoi au juste ?» Et bizarrement, voici de ce dont quoi on prend conscience au fil de ces pages. On se rappelle de notre mémoire seulement quand elle nous fait défaut. Pourquoi donc alors cet oubli de ce qui nous rappelle si souvent qui l'on est ?
Bon alors, il a gagné le championnat de mémorisation ou pas ?
Ah bah je le dis pas, il faut le lire.
Alors c'est le titre du livre à lire.
L'art et la science de se souvenir de tout, c'est de Joshua Foer et c'est aux éditions Champflammarion.
Merci beaucoup à vous Géraldine de nous donner envie de lire tant de livres chaque jour. Merci à Livia Garry qui a préparé cette émission, Nicolas Bouteloup, Marianne Chasseur, Antoine Ravon, Nicolas Berger à la réalisation cette semaine, Yanis Djoudad à la prise de son aujourd'hui. On se retrouve demain pour la suite de cette série d'émissions sur les lettres à Lucilius de Sénèque. Demain on se demandera pourquoi mépriser l'argent. La réponse de Sénèque en compagnie de Pierre Pellegrin demain à 10h. Rendez-vous sur nos comptes Facebook et Twitter également pour retrouver l'émission qu'on met en ligne tous les jours. On attend vos remarques et commentaires.